Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bonjour, merci de participer à ce cours. Donc, nous allons continuer aujourd'hui avec la description du processus de lecture d'un bit quantique. Mais avant que l'on commence, je voudrais vous indiquer que nous avons un nouveau site web sur lequel sont placés les exposés de ce cours. Donc vous pouvez directement les consulter en allant à ce site. Voilà. Et encore une fois, merci à ceux qui nous envoient leurs commentaires et leurs corrections à cette adresse. Voilà. Donc, autre annonce importante, tout à l'heure, nous aurons le plaisir d'accueillir Charlie Marcus de Harvard, qui nous parlera d'expériences très récentes réalisées dans son laboratoire dans le régime, je pense, d'effet Hall quantique et avec les applications à l'information quantique. Je pense que ça sera un exposé passionnant et je vous incite à y assister. Nous continuerons la semaine prochaine avec les semi-conducteurs et Frédéric Pierre du LPN nous donnera un exposé sur ces expériences très intéressantes concernant la relaxation des électrons dans les états de Bohr en régime d'effet Hall quantique. Et nous terminerons l'année en revenant avec Lev Yoffe au circuit supraconducteur. Et Lev nous parlera de la façon de protéger les qubits de la décohérence. Voilà, donc je vais continuer aujourd'hui avec le processus de lecture des bits quantiques. Et nous allons, dans cette leçon, examiner comment un processus hors équilibre peut arriver à détecter un signal qui est essentiellement correspondant à une excitation d'un système quantique macroscopique. Et le jeu ici consiste à avoir le maximum de sensibilité, le maximum de fidélité, sans raccourcir la durée de vie du bit quantique, c'est-à-dire comment finalement lire sans introduire de processus de décohérence. Et voilà le plan de l'exposé. Nous allons examiner en détail aujourd'hui le principe de cette lecture dispersive. On va calculer une quantité très importante qui est le déplacement en fréquence du résonateur de lecture, et on va prendre le cas particulier ici du transmon, qui est un cas relativement facile. Et on examinera cette tension qu'il y a, cette compétition qu'il y a entre une lecture qui est la plus efficace possible et les tendances à la décohérence induites par la lecture. Et on verra comment on peut en fait résoudre cette tension en utilisant des techniques empruntées de l'optique quantique. Et s'il reste un petit peu de temps, on abordera le sujet des oscillations de blocs que je vais développer dans les deux dernières leçons de ce cours. Voilà. Alors, juste pour rappeler très brièvement ce qu'on a vu la dernière fois, on a parlé de ces atomes artificiels supraconducteurs et on a vu qu'ils étaient caractérisés par deux échelles d'énergie, deux rapports, il y a trois échelles d'énergie, mais deux rapports sans dimension pour ces échelles, une énergie inductive, EL, et donc qu'on peut normaliser par l'énergie Josephson, et une énergie de Coulomb, une énergie cinétique, elle aussi normalisée par l'énergie Josephson. Et là, j'ai établi un parallèle entre finalement cette quantité, on peut un peu la voir comme ça détermine le potentiel vu par la phase. Et cette quantité ici décrit une symétrie interne du système, et on peut un peu le voir comme le nombre de neutrons, si vous voulez, dans le noyau, qui fixe le spin, qui fixe les processus hyperfins en physique atomique. On va se concentrer aujourd'hui plus particulièrement sur le transmon, donc qui a une énergie inductive égale à zéro, et qui se situe plutôt vers les grands nombres dans le rapport EJ sur EC, ce qui fait que la phase est plutôt un bon nombre quantique. C'est un exemple, pour ce que l'on va voir, c'est un exemple commode où on va pouvoir développer les concepts en faisant des calculs le cas du transmon conduit à des expressions particulièrement simples, ce qui permet d'illustrer un certain nombre de principes généraux. Alors, je vous rappelle que le problème consiste à connecter un circuit de lecture qui possède une variable macroscopique, ou plus exactement mésoscopique, une variable d'état qui au départ est dans un état neutre et qui va, à la fin de la mesure, pointer plutôt dans la direction 0 ou dans la direction 1. Et ce que l'on veut réaliser, c'est une situation dans laquelle il y a une correspondance la plus parfaite possible entre la situation où le qubit part dans l'état 1 qui doit conduire avec la plus grande probabilité possible à l'aiguille à la fin du processus de mesure dans la position classique 1, et évidemment la situation symétrique pour l'état 0. Et on définit la fidélité, l'exactitude du processus de lecture, comme finalement le 1 moins les probabilités des processus parasites. Pour ceux qui sont habitués au système optique dans lequel on détecte des photons avec un photomultiplicateur, la flèche montante ici correspond à ce qu'on appelle pour le photomultiplicateur le courant d'obscurité. C'est-à-dire que même si aucune excitation n'est présente, on va enregistrer un 1 ici, une erreur dans le sens de détecter quelque chose même s'il n'y a rien. Et le processus ici descendant correspond à plutôt pour le photomultiplicateur des erreurs de collection ou plus exactement d'efficacité quantique. C'est-à-dire que même si on a un photon qui frappe le photomultiplicateur, il ne conduit pas nécessairement à une ionisation et donc on a ce processus parasite. Alors la qualité de cet interrupteur, ça concerne la possibilité lorsque l'on ne désire pas mesurer le bit quantique, de maximiser sa cohérence. Disons, on veut finalement un processus ici de mise en route de la lecture qui est le minimum de fuite possible. On veut que ce circuit, en l'absence, avant de déclencher la lecture, ne perturbe le moins possible le bit quantique. Et on a vu la dernière fois que plusieurs stratégies, mais on va se concentrer aujourd'hui sur la stratégie de la lecture dispersive, et qui à long terme, à mon avis, a le plus d'avenir. Alors je vous rappelle le principe. Donc on a un circuit, on a un atome artificiel, et cet atome artificiel, contrairement aux atomes naturels de l'optique quantique, On va l'entourer de filtres très épais, d'une espèce de forteresse. Dans le domaine de l'optique quantique, on fait exactement l'inverse. On cherche à coupler l'atome au maximum à l'extérieur. On le met dans une, par exemple, dans une cavité pour améliorer le couplage. Là, c'est exactement le contraire. On va entourer l'atome de filtre, donc on va aussi le mettre dans une cavité, mais là le rôle de la cavité c'est de le protéger au maximum, de le découpler au maximum de l'environnement. On va garder une fenêtre spectrale très étroite pour une fréquence notée ici oméga R, donc une fréquence de résonance du filtre que l'on choisit soigneusement différente de la fréquence de transition du bit quantique, 0. Donc on empêche toutes les fréquences de passer sauf une bande très étroite que l'on choisit éloignée au maximum des fréquences de transition de l'atome. Dans cette fenêtre spectrale, on va envoyer un signal. Et ce signal interagit avec le bit quantique, mais ne conduit à aucune excitation. Il y a juste un processus dispersif. On peut voir ce circuit comme juste un morceau de diélectrique qui a un indice variable, un variable avec l'état de l'atome. Et le signal donc va se réfléchir sans perte d'énergie. Et il va y avoir deux phases possibles pour le signal réfléchi, suivant qu'on est dans l'état 0 ou 1. Donc, cet interrupteur que j'ai mentionné dans le transparent précédent, il est réalisé finalement à partir de ce processus hors équilibre. Lorsqu'on n'envoie aucun signal, finalement, le système va être maximalement découplé de son environnement et on le met en contact avec l'extérieur en lui envoyant des photons. Donc le gros avantage, c'est que plus, en quelque sorte, on envoie de rayonnement pour lire, plus cette mise en contact avec l'extérieur va être importante, au moins dans cette bande spectrale. Donc voilà un peu comment est réalisé cet interrupteur. Et donc on va examiner aujourd'hui les conséquences de cette stratégie. Donc comment lire le mieux possible ? Eh bien, il faut que le circuit quantique ici puisse affecter. On veut finalement un maximum d'effets. On veut un maximum d'effets sur la phase du signal. Et puis, on veut aussi être capable de détecter cette phase avec un minimum de photons qui arrivent sur le circuit, puisque plus on va envoyer de photons sur cet atome, plus on risque d'induire des processus parasites. Alors, donc ça, c'est une remarque que je vous ai faite. C'est très important de bien comprendre qu'ici, la stratégie habituelle d'envoyer des photons à la fréquence de transition pour un atome en physique atomique, pour détecter sa présence ou même son état, il suffit d'envoyer un rayonnement à la fréquence de transition intéressante. Ici, cette stratégie n'est pas possible parce que l'atome est beaucoup trop bien couplé. Il faut au contraire bloquer le rayonnement à la fréquence de transition qui nous intéresse. Alors, quelques mots maintenant des filtres que l'on emploie pour protéger cet atome. Alors, ces filtres sont du type cavité Fabry-Perot. Ils sont réalisés, par exemple, en technologie de guide coplanaire. Donc, ce qui est représenté ici, ce bloc, c'est un substrat isolant qui est donc du silicium ou du saphir. On dépose une couche mince d'aluminium ou de niobium qui est gravée et qui donne cette ligne de transmission qui est interrompue ici. Et ces interruptions correspondent à des capacités qui jouent le rôle de miroir. Vous savez que les résonateurs supraconducteurs peuvent avoir un très grand facteur de qualité. On peut atteindre pour des résonateurs massifs un facteur de qualité 10 puissance 10. Dans les expériences de Serge Haroche, le facteur de qualité est même légèrement supérieur. Pour des résonateurs en couche mince, ici, on peut aller jusqu'à 10 puissance 6. La raison pour laquelle c'est limité à 10 puissance 6 n'est pas très bien comprise, et c'est un sujet d'ailleurs de recherche actuelle. Mais pour notre propos aujourd'hui, ce genre de facteur de qualité est largement suffisant. On va même avoir tendance à le diminuer, comme vous allez le voir. En tout cas, les capacités ici sont suffisamment grandes pour que dans la situation qui nous intéresse, on puisse négliger complètement les pertes à l'intérieur du résonateur. Donc le facteur de qualité va être déterminé uniquement par les miroirs et pas par les pertes dans le supraconducteur du résonateur. Alors pour avoir une idée un peu de la qualité de ces résonateurs, on peut remarquer que, disons, aux fréquences où on va travailler, donc pour les fréquences de lecture vont se situer entre 5 et 10 GHz, la longueur d'onde, la longueur du résonateur, qui est un résonateur lambda sur 2, la distance entre les deux miroirs, ici, elle, est de l'ordre du centimètre, vu la vitesse de propagation dans le substrat, ici. Et ces facteurs, ce faible taux d'amortissement dans les supraconducteurs font qu'en fait, un photon peut aller venir entre les deux capacités ici sans être absorbé sur une longueur développée totale de 10 km. Ça donne un peu l'échelle de la qualité de ces résonateurs. Donc, ces résonateurs, ici, encore une fois, ne sont pas là pour améliorer le couplage entre l'atome et le rayonnement, ils sont là au contraire pour protéger l'atome, et ils vont filtrer tout le rayonnement, sauf le rayonnement évidemment qui tombe à la fréquence de résonance du résonateur. Et donc toutes les fréquences qui sont des multiples de cette fréquence ici de résonance donnée par la vitesse de propagation Vp vont être exclues. Pour coupler l'atome artificiel à ce mode résonnant de la cavité, on le place, disons, un ventre de champ électrique quand il s'agit du transmon qui est couplé plutôt capacitivement qu'inductivement. Mais on peut imaginer, au contraire, un atome artificiel qui serait couplé inductivement, il faudra à ce moment-là le placer à un ventre de courant. Alors, il y a une alternative élégante développée à Saclay. On peut, au lieu d'avoir un résonateur avec une entrée et une sortie, en général, donc, les expériences se font par transmission. On va envoyer un rayonnement, par exemple, par ce port de gauche. On le récupère déphasé par ce port de droite, mais on peut très bien utiliser un port unique et envoyer, à l'aide d'un circulateur, comme on va le voir, envoyer un rayonnement d'un côté et le récupérer du même côté, ce qui libère la géométrie. Et à ce moment-là, on dispose d'un ventre de champ électrique ici à l'extrémité du résonateur, ce qui est très pratique. Une autre stratégie développée pour à Yale dans mon groupe, c'est de considérer plutôt un résonateur qu'on appelle microstrip couplé. On a deux lignes microstrip ici placées assez loin d'un plan de masse. Et l'avantage de ce système, c'est de libérer la surface de l'échantillon de grandes régions supraconductrices qui peuvent piéger les vortex. Et à ce moment-là, le ventre de champ électrique se situe ici. Là, le bout du résonateur est un court-circuit. et on peut placer l'atome artificiel dans cette position ici de champ électrique maximum. Si vous êtes intéressé par les détails, voici les références d'un préprint récent. Bon, alors, comment le circuit fonctionne ? N'hésitez pas à m'interrompre. Voilà la source micro-ondes qui va nous servir à lire le bit supraconducteur. Donc, on envoie le rayonnement micro-ondes vers un circulateur qui fonctionne comme une espèce de valve. Il rentre dans ce filtre lambda sur 2 et va atteindre le transmont placé à une extrémité. Et le rayonnement réfléchi, qui va être déphasé d'une quantité plus ou moins grande, suivant l'état de l'atome artificiel, va être amplifié et va être mélangé par cette référence ici. Et donc dans cette détection dite homodyne, on va pouvoir mesurer directement la phase qui va finalement apparaître dans un convertisseur analogue digital. Alors, il est intéressant de regarder un petit peu les ordres de grandeur dans cette expérience. Alors, regardons tout d'abord le courant qu'on va avoir dans le résonateur lorsqu'on va lire le bit supraconducteur. Alors, une façon de calculer ce courant, très, très simple, c'est de se dire que ce résonateur lambda sur 2, on peut le voir finalement comme un résonateur LC. Une façon de s'imaginer ce résonateur LC, c'est que pour ce mode lambda sur 2, on a l'inductance totale du fil central qui résonne avec la capacité totale de ce fil à la masse. Donc on introduit donc cette inductance L et cette capacité en C. Et donc, on va dire que l'énergie totale stockée dans ce résonateur, c'est égal à un photon. On va calculer à quel courant correspond un photon dans ce résonateur. Alors, on peut en fait se convaincre que dans ce modèle un peu discret du résonateur, la combinaison 1 sur racine de LC, qui est la fréquence de cet oscillateur fictif, eh bien, c'est justement donné par la fréquence de résonance. Donc voilà, ça nous fournit une première équation. Et le rapport entre L et C, quand on prend sa racine carrée, ça nous donne une impédance caractéristique qui va être de l'ordre de l'impédance caractéristique de la ligne de transmission, donc en l'occurrence une quantité de l'ordre de 50 ohms. Donc vous voyez qu'en fait, on peut éliminer dans cette équation ici L et C, et donc arriver à calculer le courant moyen. Je suis désolé, j'ai mal corrigé ce matin, il n'y a pas de facteur 2 ici. Vous voyez, en disant que la moitié de cette énergie va correspondre à l'énergie inductive ici dans le résonateur et la moitié va correspondre à l'énergie capacitive, on peut calculer les fluctuations moyennes de courant. Et pour un photon à une fréquence de l'ordre de 10 GHz, on obtient un courant finalement relativement important, c'est 100 nanoampères. Ce qui est loin d'être négligeable si on a en tête des expériences de physique mésoscopique dans le domaine continu. Si on fait le même calcul pour la tension qui va avoir un maximum plutôt aux extrémités du résonateur, le courant lui est maximum au milieu, mais la tension est maximum aux extrémités. Pour cette tension, on va avoir, là je vois que j'ai fait une autre erreur, c'est 5 microvolts, puisqu'on multiplie en gros ce courant par 50. Hein. Donc c'est quand même des tensions et des courants tout à fait appréciables. Oui.
En général, on aime bien parler de... si on parle de fluctuation de courant, on aime bien donner en ampères par racine de Hertz. Est-ce que ça correspond à une fluctuation intégrée sur tout...
Oui, là, ça serait, disons, on parle d'ampères par racine de Hertz ou de tension par... enfin de volts par racine de Hertz, quand on parle de densité spectrale. J'imagine finalement, je n'ai qu'un mode, en gros on peut considérer que l'atome n'est couplé qu'à un mode du rayonnement, qui est finalement le mode, les ondes stationnaires dans ce résonateur, et là finalement on a un seul degré de liberté, et pour ce degré de liberté on peut raisonner en termes de courant ou de tension. On est dans une situation relativement monochromatique ici. Donc ces nombres, ces ordres de grandeur sont les amplitudes des tensions et des courants vus par ce circuit. Donc finalement, un photon correspond à une tension ou un courant relativement grand. Ce qui permet de comprendre pourquoi on a ce couplage. On a ce très grand couplage entre l'atome et le résonateur. Oui.
Si tu n'avais pas vu de photon, on aurait vu la moitié simple.
Alors oui, c'est oui. Quand on ne met pas de photon du tout, on a quand même un photon de point zéro. Et donc, oui, on... la moyenne quadratique est divisée par 2, oui. Oui. Ça nous donne aussi, ce calcul est intéressant, parce que ça nous donne l'ordre de grandeur des fluctuations de point zéro, et qui sont donc effectivement très importantes. Donc, une façon de voir, qu'est-ce que ça veut dire finalement que les... ces courants et ces tensions de point zéro sont importantes. Bon, prenons cette grandeur 100 nanoampères. Donc, ça veut dire qu'une jonction placée, par exemple, au milieu du résonateur, qui aurait un courant critique d'une centaine de nanoampères, finalement, ne va plus exister en tant qu'objet isolé, puisque même les fluctuations de point zéro, l'intensité des fluctuations de point zéro, ont une grandeur comparable à ces énergies internes. Donc en fait, ça veut dire que le système n'existe plus de manière isolée. Il va y avoir un système couplé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas raisonner en termes d'éléments isolés. La cavité et l'atome forment un système combiné. C'est un petit peu une situation analogue dans les semi-conducteurs à celle des polaritons là, que Cristiano connaît bien. C'est une façon de voir aussi ces nombres, c'est qu'on est en couplage fort pour l'atome et la cavité. Ben voilà, c'est... Voilà. Alors, comment va marcher dans le détail cette lecture ? Alors, commençons. On a vu que on a ces courants importants. Alors, une façon de voir cet effet dispersif, c'est de s'imaginer que on prend cette fréquence de la source micro-ondes. Et on va la faire varier. Ça ne va pas être le cas dans le processus de lecture, mais ça permet de comprendre ce qui va se passer. Alors, si on balaye cette fréquence F de la source micro-ondes et qu'on mesure la phase, le décalage de phase au passage du résonateur, là, et qui contient le bit quantique, eh bien, on va avoir... une courbe, quand le bit quantique sera dans l'état 0, on a cette courbe qui en fait correspond à un passage, une rotation complète de la phase de 360 degrés lorsqu'on passe sur la résonance de cette cavité ici. Donc on a cette courbe ici. Et dire que finalement le bit quantique a un effet dispersif, c'est que lorsqu'on passe de l'état 0 à l'état 1, la courbe se décale. Elle se décale vers la gauche dans le cas qui va nous intéresser. Ça peut être vers la droite ou vers la gauche, ça dépend un peu des détails du système. Mais ce qui est important, c'est que si maintenant on irradie à une fréquence fixe, lorsque le bit quantique va passer de l'état 0 ou 1, ou réciproquement, on aura, en mesurant à cette fréquence fixe, on aura un petit écart de phase. Et toute la question maintenant qui va se poser, c'est de savoir comment mesurer cet écart de phase. Est-il suffisant pour mesurer avec une fidélité proche de 1 le bit quantique? Et c'est maintenant c'est ce point que je voudrais examiner en détail. Alors vous voyez que il y a deux effets qui vont quand même jouer. Il y a d'abord le décalage en fréquence de la résonance dû au passage du bit quantique de l'état 0 à 1, mais il y a aussi un autre facteur qui va intervenir, c'est le facteur de qualité de ce résonateur de lecture. Vous voyez que plus le facteur de qualité va être grand, plus cette courbe ici qui correspond au passage de la résonance va être étroite, et plus cet espace ici entre les deux courbes va s'agrandir. Mais il faut bien comprendre que lorsqu'on va chercher à augmenter cet effet, l'effet de la lecture de cette façon, on va aussi ralentir le dispositif de lecture. Parce que si l'on augmente le facteur de qualité ici, l'impulsion de lecture devra être un train d'onde de plus en plus grand, de plus en plus long, puisque finalement, on ne pourra pas faire varier le temps de la vitesse avec laquelle on peut faire varier l'énergie dans ce résonateur, c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'interrupteur va se refermer, et finalement inversement proportionnel à ce facteur de qualité. Donc on voit qu'il y a une optimisation délicate à réaliser. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre, il est intéressant de voir comment cette lecture va s'effectuer en détail. Alors cette quantité là qui correspond à un changement de fréquence, vous voyez, le bit quantique décale la fréquence du résonateur, et ce décalage donc s'appelle ce cavity pool, le décalage de la cavité. Donc c'est la différence entre deux facteurs. Il y a un premier facteur qui correspond au décalage de la cavité par l'état zéro, ici, et puis un autre décalage en sens inverse de la cavité par l'état 1, et c'est la différence de ces décalages qui compte, hein. C'est pas le décalage absolu. Alors, examinons comment va s'effectuer le processus de lecture en détail. Donc on va examiner ce protocole pas à pas. Donc on commence par avec un générateur auxiliaire qui maintenant est à la fréquence du bit quantique. On va envoyer une impulsion. On va supposer que le bit quantique au début est dans l'état 0, et on envoie une impulsion ici qui va préparer le bit quantique dans un état excité, ou au contraire, par exemple, si l'impulsion est suffisamment longue pour faire un tour complet sur la sphère de bloc, on va revenir dans l'état 0. Donc à la fin de ce processus d'excitation, on va trouver le bit quantique dans une superposition d'état, mais la lecture va bien sûr détruire cette superposition d'état, et donc on peut supposer qu'on est soit dans l'état 0, soit dans l'état 1. Alors maintenant, on va lancer le processus de lecture. Alors maintenant, on utilise ce générateur principal et on va envoyer un train d'ondes, donc dont la longueur ici est notée TR. Et cette fois-ci, la fréquence considérée n'est pas la fréquence du bit quantique, mais la fréquence de résonance de la cavité. Alors, il y a une notion que l'on a développée l'année dernière, très importante, qui est le nombre de modes élémentaires dans ce signal. Alors, on le détermine de la façon suivante. La cavité supraconductrice stocke l'énergie pendant une durée. En fait, l'amplitude des oscillations, si on fait osciller la cavité, les oscillations vont décroître avec un temps noté tau ici, qui est l'inverse du taux de décroissance de la cavité, noté kappa, et qui est aussi relié au facteur Q de la cavité par cette relation. Et le nombre de modes indépendants de lecture qu'on envoie va être donné par la longueur de ce signal de lecture divisé par le temps tau. Le temps tau fixe le nombre d'échantillons, finalement, le nombre d'échantillons qui va nous servir à lire. Voilà, donc ça c'est une notion, donc on aura M indice S, mode temporel, pour lire le qubit. Et on va calculer ce que chaque mode temporel apporte d'information, et l'information globale évidemment s'obtiendra en sommant sur tous les modes. Alors, examinons ce qui se passe pour un train d'onde correspondant à un mode de lecture, donc un train d'onde qui a une longueur d'onde tau, qu'on envoie dans la cavité. Donc, voilà ce mode. On va le supposer au départ en phase avec la source par convention. Donc, ce que je représente ici, c'est le plan complexe, l'espace de Fresnel, le plan de Fresnel correspondant à l'amplitude de ce mode. Donc, il va être représenté par un petit segment. C'est la fameuse sucette de Fresnel dont j'avais parlé en détail l'année dernière. On n'a pas un vecteur ici, on a une sucette, puisque l'extrémité du vecteur est incertaine. Pour nos générateurs micro-ondes, ici, et nos circuits, on est dans une situation, on est très, très, très proche de la limite quantique, c'est-à-dire que la tâche d'incertitude de l'extrémité qui correspond à l'extrémité du vecteur de Fresnel du signal sonde correspond à l'incertitude minimum. C'est avec une très bonne approximation. La qualité des générateurs micro-ondes est telle qu'on est très très proche, cette tâche d'incertitude correspond vraiment au mouvement de point zéro du champ électromagnétique dans la cavité. Donc, il y a, si vous voulez, l'intensité ici correspond en fait au nombre de photons que l'on envoie, et la longueur de ce segment ici est donnée par la racine carrée du nombre de photons envoyés nombre de photons contenus dans ce mode que l'on envoie. Donc, encore une fois, ce nombre est donné par le rapport entre la longueur de l'impulsion et ce temps tau. Maintenant, j'examine ce qui se passe dans le signal de retour une fois qu'on a traversé le circulateur ici, juste avant l'amplificateur. Donc ici, le signal a été essentiellement, si on suppose que le circulateur est très bon, le signal n'a pas changé en amplitude, mais suivant que le bit quantique est dans l'état 0 ou 1, on a eu un déphasage, et donc on a maintenant deux vecteurs de Fresnel, deux sucettes de Fresnel correspondant donc à ces deux états 0 et 1. Et cet angle ici correspond à l'angle de déphasage à cette fréquence qu'impose le bit quantique au rayonnement. Alors, en général, c'est quelques degrés. J'ai agrandi l'effet, là. Alors maintenant, regardons ce qui se passe à la sortie de l'amplificateur. Cet amplificateur est à froid, c'est un amplificateur cryogénique avec un très bon facteur de bruit, mais les meilleurs amplificateurs cryogéniques actuellement ont quand même un facteur de bruit qui correspond à l'addition du signal à environ 40 photons de bruit. Donc, ce que j'ai ici, c'est un accroissement de ce vecteur, donc une amplification, mais le bruit a été augmenté. Il n'est pas, vous voyez que le rapport signal sur bruit s'est dégradé, puisque la tâche d'incertitude est maintenant bien plus grande en proportion de la longueur du vecteur, et cette surface ici, si vous voulez, augmentée en proportion plus grande que le gain, correspond au bruit ajouté par l'amplificateur. Donc vous voyez, dégradation du rapport signal sur bruit, puisque ces tâches ici, cette tâche d'incertitude maintenant, se recouvre à la sortie de l'amplificateur. C'est le prix à payer finalement pour avoir un signal suffisamment intense pour pouvoir être traité par le reste de la chaîne d'amplification. Alors, regardons maintenant ce qui va se passer à la sortie du mélangeur, une fois qu'on fait battre ce signal, une fois qu'on démodule ce signal par la référence. Donc, cette opération correspond à une espèce de projection, une projection sur l'axe des quadratures ici. Et on va voir cette projection, va nous fournir deux tâches, une tâche bleue correspondant au cas où le bit quantique est dans l'état fondamental et une tâche rose dans le cas où il est dans l'état 1. Et vous voyez maintenant que au niveau de ce traitement digital, si on impose un seuil sur la valeur de cette composante homodine, eh bien, on va discriminer l'état 1 de l'état 0. Il y aura une certaine erreur puisque ces deux tâches ici se recouvrent. Donc, vous voyez que plusieurs facteurs vont intervenir dans ce recouvrement. Il faut plus on a un angle de déphasage grand, meilleur sera le résultat, mais aussi on a intérêt à diminuer évidemment le nombre de photons de bruit rajoutés par l'amplificateur. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc deux tâches de bruit, deux tâches qu'on peut supposer gaussiennes, qui se séparent dans ce processus, et on peut calculer exactement la fidélité de la lecture. Alors, reprenons ces deux paquets d'ondes, ces deux paquets gaussiens, pardon, ce n'est pas du tout des paquets d'ondes, à ce niveau-là, c'est une probabilité complètement classique d'observer ce signal ici homodine est un signal classique puisqu'on a rajouté énormément de bruit ici dans ce processus. On a dans ces paquets d'ondes dans ces paquets classiques de probabilité, dans ces distributions de probabilité, on a deux paramètres. Il y a un paramètre sigma qui spécifie la largeur, la dispersion de la probabilité. Et on a ce paramètre S qui donne la séparation, ici, cette distance entre ces deux distributions est notée 2S. Et ça, c'est cette composante, c'est donc le signal homodine à la sortie du mixeur. Alors, c'est une approximation bien réalisée en pratique. On peut vraiment supposer que cette distribution ici est une distribution gaussienne. Et ça nous permet d'établir une correspondance entre ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit. Donc le rapport signal sur bruit, c'est le signal ici dans cette expérience, c'est 2S, c'est la distance entre les centres de gravité de ces deux distributions. Et le bruit, c'est un petit peu subtil parce qu'on a deux distributions, chacune avec une largeur sigma. Mais pour avoir le bruit total, il faut convoluer ces deux distributions. Et donc, deux gaussiennes que l'on convolue vont avoir une variance qui va être double. Donc, ça donne ce facteur racine de 2 sigma pour l'écart type total ici. Alors, on peut, ça c'est un petit exercice facile à faire, mais on peut se convaincre que la fidélité, donc, qui va être finalement correspondre à ce morceau de gaussienne qui est compris entre cette partie ici et une partie symétrique de l'autre côté, est donnée par la fonction d'erreur. Et en fait, ça va être donné par la fonction d'erreur de ce rapport signal sur bruit, ici divisé par 2. Ce qui veut dire que, par exemple, lorsque ces deux distributions se seront séparées d'une quantité qui est égale à deux fois l'écart type, hein, c'est-à-dire quand finalement ce rapport S sur sigma vaudra 1, donc c'est un peu... la limite, ce qui correspond un peu en optique à ce qu'on appelle la limite de Rayleigh, eh bien, la fidélité du processus de lecture sera environ 68%. Mais lorsque, évidemment, ce rapport signal sur bruit augmente, lorsqu'il vient 2, par exemple, cette fidélité converge très, très rapidement vers 1 à cause des pieds exponentiels de la gaussienne. Alors, les considérations précédentes permettent de calculer ce rapport S sur sigma, et on voit que vont intervenir, quatre types de facteurs. Alors, le premier facteur, c'est ce qu'on va calculer très rapidement maintenant, c'est ce décalage de la cavité, et les autres facteurs sont quand même relativement simples à comprendre. Donc, ça, c'est un décalage en fréquence dû au changement d'état du bit quantique. Il faut le multiplier par taux pour avoir la phase. Ça fixe ce S ici. Plus on envoie de mode, plus on accumule le processus, plus on va obtenir de signal. Et on obtiendra, le gain sera en racine du nombre de modes. Et il y a aussi l'intensité c'est-à-dire la longueur de ce vecteur, la longueur évidemment du stimulus ici compte, c'est-à-dire qu'on a aussi une fidélité qui va croître comme la racine du nombre de photons envoyés dans le résonateur. Et on a au dénominateur, évidemment, le nombre de photons qui est apporté par l'amplificateur. Donc, cette expression est très utile, elle est très générale. J'ai voulu, détailler ce cas parce que les considérations qui sont développées ici s'appliquent à toutes sortes d'autres expériences micro-ondes où on va utiliser finalement ces méthodes dispersives pour mesurer les propriétés d'un objet. Donc, l'optimisation paraît relativement simple à ce niveau-là. On voit qu'on a intérêt, évidemment, à envoyer un maximum de nombre de photons ici. Mais attention, si on envoie trop de photons, on pourra déclencher à un certain ordre des processus parasites. Donc, peut-être qu'on ne peut pas aller très loin là dans cette voie ici. Vous voyez que quelque chose qui va toujours, dans toutes les circonstances, nous faire gagner, sans aucune pénalité en retour, c'est finalement la diminution de ce nombre de photons ajoutés par l'amplificateur. Quelque chose qui ressort de cette analyse, c'est que plus l'amplificateur sera silencieux, mieux les choses se passeront sans aucune pénalité en retour. On a toujours intérêt à avoir un amplificateur qui est le meilleur. Et maintenant, examinons regardons comment optimiser ce décalage de la cavité. On va voir si justement ça ne nous pénalise pas par ailleurs. Alors, une petite remarque quand même. Donc, cette expression relativement simple est obtenue dans la limite où l'angle déphasage est quand même petit par rapport à un radian. Ça m'a permis de confondre sinus et tangente ici dans cette expression. Sinon, on aurait une expression un peu plus compliquée. Pas de questions. Alors, maintenant, regardons comment calculer finalement ce fameux effet, comment on peut calculer le décalage en fréquence, comment ce déphasage d'un circuit peut se calculer. Alors, ce déphasage, on peut comprendre son origine de la façon suivante. C'est peut-être un peu lourd comme diagramme, mais je vais vous guider dans ce diagramme qui explique de manière qualitative, de façon assez intéressante, ce qui se passe. Alors, j'ai représenté ici les différents états du transmonde. Donc ça, tout ça, 0, 1, 2, 3, c'est les états de l'atome. Et j'ai un autre degré de liberté dans le système, c'est le nombre de photons dans le résonateur. Alors, j'ai surmonté ces états de l'atome ici par des états qui font intervenir un certain nombre de photons. Donc on peut avoir par exemple l'atome dans l'état 1 ici et 3 photons dans le résonateur, ça nous donne cette ligne. Ce qui sépare tous ces états, c'est la fréquence de résonance du résonateur. En fait, on devrait avoir H bar devant pour avoir l'énergie. En tout cas, on peut exciter cette transition ici en envoyant ce rayonnement oméga R dans le résonateur. Bon, donc je vous remarquerai une chose très importante ici, c'est que les fréquences de transition entre deux états successifs du bit quantique sont légèrement différentes. Ici, je les ai exagérées, c'est cette fameuse anharmonicité dont on a parlé la dernière fois. Donc, lorsqu'on monte en énergie, la fréquence de transition diminue. Ça va être extrêmement important. Alors, du fait que le rayonnement et l'atome sont couplés, en fait, on a ces couplages entre états qui sont représentés par ces flèches ici. Et donc, ces états, du fait du couplage, vont se repousser légèrement. Alors, l'anharmonicité ici est absolument fondamentale parce que si on avait un espace constant entre les différents états de l'atome, en fait, on pourrait se convaincre que ces différents repoussements de niveau se compenseraient exactement et en fait, on n'aurait qu'une renormalisation globale de cette fréquence de transition. En fait, du fait que ici, on a un décalage en fréquence. Ce couplage ici n'est pas égal à ce couplage-là et ça va donner à la fin un effet. C'est-à-dire que cette fréquence de transition ici va devenir différente de celle-ci. Donc, lorsqu'on enverra un photon sur le bit quantique, la fréquence va dépendre de l'état. Et là, vous avez une espèce de représentation un peu imagée de ce qui peut se passer. Alors, on peut calculer cet effet de manière plus rigoureuse en traitant le problème de la façon suivante. Donc, si on regarde l'Hamiltonien du système couplé, on va avoir l'Hamiltonien du bit quantique, on va avoir l'Hamiltonien du résonateur, appelé aussi cavité, puis on va avoir un Hamiltonien de couplage. Alors, l'Hamiltonien du bit quantique, on peut le représenter de cette façon. C'est l'intérêt de ce fameux transmon, c'est qu'on peut le voir comme un oscillateur harmonique avec une anharmonicité qu'on va traiter par la suite en perturbation. Donc, l'opérateur C correspond à une excitation dans du bit quantique. Et donc, cette première partie de l'Hamiltonien, c'est tout simplement le nombre d'excitations fois la fréquence de base du bit quantique, qui est très proche de la fréquence plasma, ici. Et ce facteur ici d'harmonicité, alpha, qu'on a vu la dernière fois, c'est donné dans le transmont par l'énergie de Coulomb, E2 sur 2 CQ, où C indice Q est la capacité du transmont renormalisé par la cavité. Cette renormalisation, c'est un effet assez faible, mais je l'inclus ici pour être complet. Après, donc, on a l'hamiltonien de la cavité. Donc ça, c'est un simple oscillateur harmonique avec l'opérateur A ici qui représente le nombre de photons dans la cavité. Et le couplage entre cavité et atome correspond à ce terme ici caractérisé par cette constante G de couplage. Et donc vous voyez que le couplage peut être vu de façon très simple. On crée une excitation dans la cavité, on en détruit une dans l'atome et vice-versa. Donc c'est un échange tout simplement d'excitation entre qubit et cavité qui se fait avec une fréquence qui est H bar G. Alors l'année, on avait passé un petit peu de temps l'année dernière à calculer en fait cette intensité de couplage. Et je vous renvoie à, disons, la leçon 2 de l'année dernière, dans laquelle on avait calculé ce facteur G. Ce qui est important de voir, c'est que ce facteur G, ici, est directement donné par la capacité de couplage. Vous avez vu, le transmont est couplé à la cavité par une capacité. Et simplement en jouant sur cette capacité, on peut faire varier ce facteur de couplage. C'est extrêmement pratique. On a un atome avec un couplage parfaitement ajustable. Donc l'interaction matière-rayonnement de la physique atomique, qui est en général très bridée, à des valeurs petites ici, est parfaitement ajustable par cette capacité. Alors, l'intérêt de la situation du transmont, c'est qu'on peut effectuer les calculs de façon extrêmement simple. On va oublier, dans un premier temps, on va oublier l'anharmonicité de l'atome. On jette ce terme et on va avoir un hamiltonien linéaire. Et cet hamiltonien linéaire est quadratique, hein, dans les opérateurs A et C. On peut le diagonaliser exactement. En fait, cette diagonalisation va conduire à une renormalisation des fréquences de la cavité et des fréquences de l'atome. Et on va maintenant avoir des nouveaux états, finalement, qui sont des états mélangés. Donc, on a des états mixtes qui sont à la fois photons et atomes, et atomes et photons. C'est exactement comme dans le cas des polaritons, par exemple. Oui ? Ici, non, oui, je n'ai pas. Non, il n'y a pas. C'est une bonne remarque, là, mais non, il n'y a pas tellement besoin de mettre le lamp shift ne va pas. Enfin, si tu veux, le lamp shift, il intervient. Une façon de voir la chose, c'est qu'il y a une renormalisation de ces fréquences, mais ça va être un peu trivial. Je ne pense pas que les considérations de lamp shift ici, pour ce cas-là, apportent quoi que ce soit. Ce que je veux, c'est très important, là, ce qu'il faut bien comprendre, je jette ce morceau qui va révéler toute la physique quantique, je le jette. Donc j'ai tout simplement deux oscillateurs harmoniques couplés, et le couplage entre deux oscillateurs harmoniques va se faire de façon classique. J'ai deux résonateurs dont les fréquences vont se repousser. Alors, cette partie du calcul, comme on traite des oscillateurs classiques, à la limite, il n'y a pas vraiment besoin de mécanique quantique pour comprendre ça. On a un paramètre qui rend les fréquences de résonance de ces deux résonateurs différents, c'est ce que ce paramètre ici horizontal ici, et ce que je porte en ordonnée, c'est la fréquence de résonance du mode. Et il y a un croisement de niveaux qu'on va observer classiquement. Ces deux oscillateurs couplés vont se repousser. Il n'y a pas du tout de, il y a pas du tout le lamp shift. Si on pense au lamp shift ici, c'est en fait une très mauvaise idée parce que cet effet est complètement classique. Contrairement à ce que certains prétendent, il y a absolument dans ce phénomène ici, il y a aucune mécanique quantique. Ça se produira aussi pour des oscillateurs classiques. Donc on a, si vous voulez, on a deux oscillateurs. On va supposer que le résonateur a une fréquence fixe. Le bit quantique a une fréquence qu'on suppose variable. Et quand la fréquence du bit quantique passe par la fréquence du résonateur, ces deux fréquences se repoussent. Ce n'est pas un repoussement entre deux niveaux, là. C'est un repoussement entre deux fréquences. Vous savez, vous avez tous, je pense, à un moment donné, fait ce problème. Vous savez que les fréquences ici, qu'on appelle dans la limite dispersive, c'est loin du croisement. Les fréquences ici se repoussent d'une quantité qui est égale à g carré sur delta. C'est ce que donne la théorie ordinaire des perturbations. Mais là encore, c'est quelque chose qu'on pourrait, un calcul qu'on peut faire complètement classiquement. Un autre résultat de base que vous connaissez, c'est la proportion, ce que les nouveaux résonateurs renormalisés héritent des anciens résonateurs. C'est ce que je représente par ce rapport. On est parti d'un résonateur noir et d'un résonateur rouge. On obtient une espèce de résonateur de couleur intermédiaire. Le rapport entre la quantité de l'héritage, finalement, de ce résonateur, finalement, le bit quantique va hériter du résonateur une proportion qui est donnée, elle, par g carré sur delta. Vous voyez, c'est extrêmement simple. G, c'est une fréquence, delta, c'est une fréquence. Si on veut une proportion, on effectue ce rapport. La proportion doit être indépendante du signe du couplage, donc g carré sur delta carré, c'est tout à fait plausible. D'ailleurs, il n'y a pas de facteur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de facteur comme pi ou e devant ces rapports. Donc ça, c'est vraiment c'est un calcul de base que tout le monde peut faire sur deux oscillateurs harmoniques couplés. Et on va l'appliquer ici. Finalement, maintenant, une fois qu'on a diagonalisé, une fois qu'on a trouvé les modes propres du système, on va maintenant calculer l'effet, disons, dans une approximation séculaire de cette perturbation. C'est-à-dire que je vais calculer ce terme ici dans cette nouvelle base, dans la nouvelle base diagonalisée. Et ça me donne donc deux nouveaux termes dans l'Hamiltonien. Donc j'avais avant de réinclure cette non-linéarité, j'avais un Hamiltonien effectif qui donnait deux termes, un nombre de photons habillés, un nombre d'excitations habillées pour le qubit ici, et un nombre de photons habillés pour le résonateur. Et je vois que quand j'évalue ce terme ici dans la nouvelle base, j'ai simplement deux termes très simples. Un premier qui est juste l'ancienne non-linéarité exprimée dans le nombre d'excitations habillées. Et ce terme qui nous intéresse, c'est ce terme-là qui va nous donner ce fameux facteur qui. Vous voyez que c'est très très simple. On a ce facteur de non-linéarité, alpha, et g carré sur delta carré. C'est ce qui va nous permettre de calculer ce fameux décalage en fréquence, puisque si je regroupe les termes de façon différente, vous voyez que si je regroupe ces deux termes, je vais pouvoir mettre le nombre de photons dans le résonateur ici en facteur, et je peux interpréter le facteur en face comme finalement une renormalisation de la fréquence de la cavité, et cette renormalisation, elle a ce facteur qui indiscu ici, est simplement proportionnelle au nombre d'excitations du qubit. C'est donc très simple. Ici, je peux calculer ce décalage en fonction du nombre d'excitations du bit quantique. Et vous voyez, je peux en particulier calculer qui 1 moins qui 0. Donc, ce fameux cavity pool ici, c'est le facteur de non-linéarité fois le rapport entre le couplage au carré divisé par ce décalage en fréquence. Donc, on voit que pour avoir une meilleure lecture, il faut avoir un maximum de non-linéarité. Bon, ça, c'est pas très surprenant. Plus l'atome est non-linéaire, plus finalement il va être détectable. Si on a un oscillateur harmonique, on ne verra rien, ce qui est assez normal, puisque l'oscillateur harmonique est classique dans tous les ordres. Et c'est le principe de correspondance. On voit qu'il semble qu'on a intérêt à augmenter la force du couplage et à diminuer le décalage. Mais en fait, ça ne serait pas une très bonne idée de toucher à ce paramètre, parce que finalement, en voulant, et c'est là cette fameuse tension dont je parlais au début, c'est qu'en couplant l'atome au rayonnement, je vais aussi augmenter sa relaxation. C'est-à-dire son amortissement va être augmenté exactement dans la même proportion. En fait, ce facteur, finalement, G carré sur delta 2, on voit que c'est le rapport de participation de l'atome dans le résonateur. Donc, si je l'augmente ici pour mieux lire, je vais aussi augmenter finalement la dissipation héritée par l'atome du résonateur. Donc, en fait, je vais raccourcir le temps T1. Donc, ce n'est pas une très bonne idée d'agir sur ce facteur. En fait, vous voyez que si d'ailleurs on multiplie ce facteur de décalage en fréquence par le T1, on va avoir une quantité qui est en fait indépendante de G et de delta. Donc on n'a pas vraiment tellement intérêt à diminuer, par exemple, il faut plutôt jouer sur les autres facteurs. Hein. Alors, je vais juste consacrer une ou deux minutes à vous parler d'une. Heureusement, ce dilemme infernal a une solution. Ce qu'on a considéré jusqu'à présent, c'est un atome qui était finalement qui n'était pas très éloigné en fréquence de transition du résonateur. Maintenant, on va examiner un cas complètement différent où on a réussi à avoir un système à trois niveaux. Donc, on a maintenant un atome avec une fréquence de transition relativement petite, et on va maintenant utiliser un troisième niveau. Donc qui ne sert à rien pour finalement le calcul quantique, mais qui va être extrêmement utile ici pour la lecture. Donc on va avoir cette fréquence de transition est autorisée ici, cette transition est autorisée, mais on va avoir une interdiction très stricte dans cette transition entre ce troisième niveau et l'état fondamental. Parce que, par exemple, il y a une certaine symétrie dans l'atome qui fait qu'on aura des éléments de matrice finis ici, mais là, on aura strictement zéro. Donc, un exemple, par exemple, le squid RF, lorsqu'on le polarise pour un quantum de flux exact, eh bien, on va avoir un doublet dans l'état fondamental, et ce doublet va être surmonté d'une transition assez importante en énergie, et on aura une interdiction totale du fait de la symétrie de la fonction d'onde pour une transition qui se fera entre l'état fondamental et ce deuxième niveau excité. Voilà un exemple de cette situation très appréciée en physique atomique. Alors là, donc, dans cette situation, la situation pour la lecture change radicalement. On va en quelque sorte avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est assez remarquable. Donc ce processus est très utilisé dans les horloges atomiques basées sur les ions piégés. Donc maintenant, on a une petite fréquence de transition entre les états du bit quantique et on a une grande fréquence de transition pour le résonateur. Par contre, cette fréquence de transition pour le résonateur n'est pas très éloignée de la fréquence de transition entre l'état 1 et l'état 2 ici. Et là, j'ai représenté les premiers états de toute l'échelle des états correspondant aux états de photons. Donc, c'est très agréable parce que j'ai un problème, au total, une diagonalisation à faire dans un espace à 5 états. Et alors, c'est extrêmement simple. En fait, vous pouvez vous convaincre que seul le couplage entre ces deux états compte ici. Il n'y a pas de... En fait, cette interdiction qu'on a vue interdit le couplage ici. Et finalement, ces deux niveaux vont se repousser, ce qui va changer cette fréquence de transition et ne va pas affecter cette fréquence-là du tout. Donc on tient là notre système qui finalement décale la fréquence de transition du résonateur de manière conditionnelle sur le qubit. Mais là, la situation en ce qui concerne la relaxation est complètement différente parce qu'il n'y a pas de processus. Ces états finalement vont intervenir à un ordre beaucoup plus élevé que dans la relaxation entre le niveau 1 et le niveau 0. C'est pas le décalage en fréquence qui va intervenir, ça va être ce décalage ici en fréquence énorme qui va être en plus être à la puissance 4, et donc on gagne énormément ici dans ce système. On peut finalement lire sans payer le prix en relaxation. Voilà, j'en ai fini pour ce système. J'avais préparé quelques transparents sur le sujet qui va nous intéresser dans les deux prochaines leçons, donc les oscillations de bloc et la façon dont éventuellement on pourrait les mesurer. Mais je vais m'arrêter ici et puis... Je vous remercie pour votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.